Voilà, c'est pas un magazine, hein. Vous savez, des fois on achète des magazines, comment faire, etc. C'est vraiment une méditation que j'avais envie de partager avec vous. Hein. Comment réussir sa vie? Ah, ça, c'est une question, hein. C'est pas la question à deux balles, hein. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un chapitre qui peut-être les premiers mots vont vous choquer. Voilà. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Ça commence bien, hein. Qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour appui, qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson, un genévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme. Maudit soit l'homme et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant et ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur, nous dit Jérémie, est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, quelques conseils pour réussir sa vie. Parce que Dieu s'intéresse à notre vie. Et Dieu veut que nous la réussissions. À l'époque où ce message a été donné, c'est au temps du prophète Jérémie. Alors, c'était la pire époque, hein. Et c'est assez intéressant de voir que durant les pires époques, il y a les messages les plus forts qui ressortent. Israël reste insensible à l'appel de Dieu et son cœur s'endurcit face aux avertissements de Dieu. Le nord, du nord vient l'envahisseur, c'est la naissance de Babylone. Les Babyloniens commencent à vraiment avaler les territoires qui sont autour d'eux. Et voilà que cette menace, devant cette menace, depuis le roi jusque dans la population, tous rejettent les directives de Dieu. Dieu avait dit par ses prophètes, rendez-vous aux Babyloniens, ne leur résistez pas parce que ils sont là, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Et Israël a préféré se tourner vers des faux prophètes beaucoup plus nombreux, leur disant, mais non, vous allez gagner, ralliez-vous à l'Égypte. Et là, bien, Jérémie sort et dit, voilà le message. Voilà le message de Dieu pour vous. Maudit soit l'homme qui se confie à un être humain et qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Alors, comment comprendre cette expression maudit soit l'homme alors que Dieu est un Dieu qui aime son peuple? Comment il peut le maudire? Est-ce que c'est ce que Jérémie veut nous dire? Alors, la malédiction dans l'étymologie en français veut dire du mal, hein, ou souhaiter le mal. Quand un homme prononce une malédiction contre quelqu'un, il veut qu'il lui arrive du mal. Voilà. Des fois, on entend des gens dire, ah, je l'aime pas et tout, et voilà. Donc c'est une malédiction qui est dite, hein. Noé, par exemple, a maudit Canaan, qui l'avait humilié, hein, donc qui était son fils. Isaac a prononcé une malédiction sur quiconque maudirait Jacob. Et Balaam, ce devin, hein, c'est dans le livre des Nombres, eh bien a été payé pour maudire Israël, dit du mal d'eux. Mais c'est surprenant de voir que Dieu n'est pas un Dieu qui aime maudire. La preuve, c'est que dans les premières pages de la Bible, dans la Genèse, quand Satan fait échouer et déchirer l'homme dans sa relation avec Dieu, échouer l'harmonie de cette relation, eh bien Dieu va maudire Satan, il va maudire le sol, mais il ne maudit pas Adam, et il ne maudit pas Ève. Alors pourquoi ici est-il écrit « maudit soit l'homme » ? On peut, je pense, comprendre par le terme « malheur à l'homme » ou « l'homme fait son malheur s'il suit tel ou tel chemin ». Le prophète Jérémie parle de la part de Dieu. Et je suis persuadé que Ce texte-là n'est pas un texte enterré avec l'histoire d'Israël. C'est quand même la parole de Dieu. Et elle a quelque chose à nous dire. Alors on verra ce qui va provoquer le malheur de l'homme et puis voir que les choix de nos vies ont des conséquences. Alors qu'est-ce qui peut provoquer le malheur de l'homme? Eh bien dans ce texte, c'est un qui se confie dans les autres, deux c'est qu'il se confie dans ses propres capacités, sa propre puissance, et troisièmement c'est qu'il rejette Dieu. Alors maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Alors comprenons bien ce que Dieu veut nous dire. On pourrait se dire, mais alors c'est pas la peine d'avoir confiance aux autres. Bon, je pense que on peut pas vivre sans un minimum de confiance, hein. Quand vous allez sur Internet, quand tu vas acheter quelque chose ou regarder un produit, tu fais comme moi, tu vas voir les avis, non? Enfin, moi, c'est ce que je fais. Alors, si sur un produit, il est écrit « matériel fragile, difficile à utiliser, ne correspond pas au produit présenté, ailleurs, c'est bien moins cher », ben, tu fais comme moi, tu l'achètes pas, hein. Voilà, il y a des spécialistes, je vois. Hein. Si tu lis « à fuir absolument », ben, il n'y a pas un panneau plus clair que ça. Hein. Donc, tu fais confiance, comme moi, aux avis qui sont sur Internet. On ne peut pas vivre si on n'a pas confiance. Si tu fais des travaux, si tu amènes ta voiture chez un garagiste, dans chacune de ces situations, il y a un minimum de lien de confiance. Depuis ta boulangère jusqu'à chez ton médecin et dans ta propre famille, s'il n'y a pas cette relation de confiance, ça va être vraiment compliqué. Hein ? Le Seigneur lui-même dit que nous devons être des gens de confiance. Digne de confiance, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alors dans ce texte, il n'est pas question de relation d'authenticité et d'entraide. Il n'est pas question de cela. C'est pas de cette confiance-là que Dieu nous parle. Ici, il est question de trouver une solution qui concerne son avenir, trouver cette solution chez les humains. Honnêtement, quel homme sur terre aujourd'hui peut nous garantir un avenir? Madame Soleil, non, c'est pas un homme, c'est une femme. Ni les astrologues, bien sûr, ni les devins, etc. Personne peut nous garantir que demain, ça se passera de telle ou telle manière. La preuve, c'est que la pandémie, on n'y était pas prêt, hein. Imaginez, on vous prend en photo, on envoie cette photo 3 ans en arrière. Yeah, mais on vient à l'église masquée ou quoi? Hein? Non, pas du tout. Hein? En fait, ce que Dieu veut nous dire ici, c'est qu'en dehors de lui, en ce qui concerne l'avenir, notre vie spirituelle et ses valeurs, eh bien, si nous nous confions dans des hommes, nous faisons fausse route. Nous nous trompons. Cela va amener sur nous, eh bien, le malheur, la ruine. Le psaume 146, nous dit ceci. Ne vous confiez pas au noble, à un être humain à qui n'appartient pas le salut. Son souffle s'en va, il retourne à sa poussière et ce même jour ses intentions périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel. Ésaïe dira avant Jérémie, cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a que souffle, car de quelle valeur est-il? En fait, la folie d'Israël, c'est peut-être notre folie aussi, c'est de se confier en l'homme pour être sauvé de la puissance d'un grand. Israël savait très bien qu'il faisait les mauvais choix déjà depuis un certain temps, et il s'entête dans ses mauvais choix, et il persiste à revenir à Dieu. En fait, le problème d'Israël, c'est qu'il connaissait Dieu. Et Dieu l'avait sorti d'une telle situation qu'Israël, en fait, se détourne. Il va se confier. Dieu dit de cette attitude, eh bien, il tisse son malheur. Cette confiance dans le secours humain va lui enlever tout profit et le bien qu'il espérait. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Et vous savez que c'est par ce biais-là, dans la Bible, en comprenant la stratégie de l'Antéchrist, qui doit venir dans le monde et qui capte, je veux dire, la confiance des peuples pour le diriger. Alors, la deuxième des choses que Dieu nous dit, c'est par la bouche de Jérémie, « Maudit soit l'homme qui prend la chair pour son appui. » Alors là, il s'agit de se confier en soi-même. Hein. Il est bien sûr important d'avoir, comme on a dit, un minimum de confiance dans les autres, mais aussi en soi. Quelqu'un qui ne fait douter que de lui, que de lui, que de lui, ben, il va constamment, il va pas être bien. Hein. Et, dans les décisions qu'il va prendre, hein, est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, etc. Est-ce que, voilà, s'il a des responsabilités, ça va être très compliqué. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu ici. Ici, il est question de la chair. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est se reposer sur ses propres forces, réaliser ce qu'on veut selon ses propres désirs, en mettant Dieu de côté. Et vous savez, même les hommes de Dieu dans la Bible ont tenté de compter sur leurs propres forces. Lorsque Moïse a vu la situation compliquée du peuple d'Israël, qui était dans l'esclavage et lui dans le palais de Pharaon, il a décidé de sortir le peuple. En quoi? En tuant un gardien. Il a compté sur ses propres forces. Samson et Dalila, remarquable exemple. Samson comptait sur ses forces. Ses forces étaient dans les cheveux. Ne croyez pas que je suis faible, hein? Donc, quand il était auprès de Dalila, elle a vraiment, enfin, elle lui a martelé la tête en lui disant, dis-moi, etc. Et lui, chaque fois, il lui donnait une mauvaise information en disant, il comptait toujours sur ses forces. Et le jour où il est passé chez le coiffeur, ben voilà. Il est dit que, sans s'en penser, sans sortir comme les autres fois, mais pas cette fois-ci. Voilà un homme qui s'est confié à la propre chair. On peut penser à l'apôtre Pierre. Pierre qui a dit, mais je suis un boss, si jamais il y en a un qui touche à Jésus, c'est à moi qui touche. En gros, c'est ça, hein. Voilà, c'est français, courant, marseillais, ça, hein. Donc, voyez, ça veut dire qu'il compte que sur lui-même pour de grandes choses. Mais heureusement qu'ils ont appris la leçon, même si les conséquences ont été parfois très difficiles. Moïse a dû fuir pendant combien de temps? 40 ans. Parce qu'il a compté sur ses forces. Samson a été humilié, emprisonné, parce qu'il a voulu compter sur ses propres forces. Et Pierre, l'apôtre, a versé des larmes amères quand le temps était venu de défendre Jésus, mais voilà qu'il l'a renié comme Jésus le lui avait dit. On peut même dire à Dieu, je peux le faire parce que tu m'en as donné la force et les capacités. Alors là, il y a une question. Dieu demande dans la Bible aux hommes de pas forcément réaliser ce qu'ils peuvent. Ça, c'est normal, à la limite. Mais Dieu va leur demander de réaliser l'irréalisable, d'accomplir l'impossible. Ce Moïse qui pensait sortir le peuple d'Égypte en assassinant, en tuant un gardien, Dieu lui dit, maintenant tu vas aller là-bas et tu vas délivrer le peuple. Évidemment, Moïse ne veut pas, parce qu'il sait très bien que c'est l'impossible qu'il doit réaliser. Et Dieu lui donne un bâton en disant, tu vas avec ce bâton. Ah, mais il fallait un char, ça n'existait pas à l'époque, hein, il ne savait pas. Bon, mais en tout cas, voilà le bâton comme signe. En d'autres termes, Moïse réalise qu'il doit réaliser quelque chose d'impossible. Abraham et Sarah devaient être parents à un âge fort avancé. Et les disciples devaient, eux, alors, ça c'est formidable, la foule était là, 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, nous dit les évangiles, ça veut dire qu'ils étaient peut-être 10 000 ou plus. Et Jésus leur dit, quand le soir approche, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et les disciples disent, mais voilà, il faut que tu les renvoies, parce qu'ils vont être fatigués, il faut qu'ils retournent dans les villages pour s'acheter des vivres. Et Jésus tranquillement leur dit, mais que cette foule n'a pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Heureusement que ce n'est pas des McDo qu'il y avait, hein, parce que le drive. Hein. Et en fait, les disciples savent très bien, ils disent, mais nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ils comptaient sur leur propre force. En réalité, mon frère, ma sœur, si nous devions obéir au Seigneur que dans les périmètres de nos possibilités, où serait la foi? Où serait ce pas de foi? Si nous devions seulement faire ce que nous savons faire, c'est bien. Mais nous serions qu'humains. Et même si nous avions les capacités les plus extraordinaires, en réalité, nous ferions notre malheur en comptant que sur ses dons. Jérémie nous dit aussi, maudit soit l'homme qui écarte son cœur de l'Éternel. Alors il y a celui qui se confie dans les autres. Il y a celui qui se confie dans ses propres forces. Et il y a celui qui rejette l'Éternel, qui s'écarte. Alors dans différentes versions, on arrive un peu à saisir l'idée. Celui qui s'éloigne, ses paroles de vie. La version d'Arbi, c'est dont le cœur se retire de l'Éternel. Et la semeur, c'est qui détourne son cœur de l'Éternel. Il y a une trajectoire qui est ici déviée. Malheur en fait à celui qui délaisse Dieu dans son cœur. Si nos yeux et notre espérance ne sont basés que sur le soutien des hommes ou sur nos propres forces, il est évident qu'on se détourne de Dieu. Certains l'ont compris de cette manière. C'est le résultat, en gros, des deux premiers. C'est un peu l'idée de, vous savez, de l'apôtre Pierre. Alors Pierre, ils étaient dans la barque, il y avait la tempête. Jésus apparaît et calme la tempête. Et les disciples sont effrayés. Qui est celui-ci qui peut ordonner à la tempête de se calmer? Et Pierre, il a une idée dans la tête, c'est « Je veux marcher sur les eaux » parce qu'il a vu Jésus venir en marchant sur l'eau. Je ne sais pas quelle idée lui est passée par la tête. Bon, ok, discutons pas de l'utilité de la chose. En tout cas, c'est ce que fait Pierre. Il enjambe la barque et Jésus lui dit « Viens ». Et voilà que Pierre réussit à marcher. Et la Bible nous dit que les évangiles disent « En voyant le vent qui était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. » Et il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus saisit sa main et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors Pierre a douté de la capacité du Seigneur à le sauver. Il a détourné ses yeux du Seigneur et il les a posés autour. Il s'est quelque part, il s'est éloigné. Malheureusement, bon là ça finit bien, hein, mais malheureusement, bien des hommes s'entêtent jusqu'à leur ruine. Avec l'âge, on dit que c'est le privilège de l'âge, hein. Avec l'âge, on peut petit à petit, bon, ça va, j'ai pas 70 ans non plus, hein, ni 100 ans, hein. Mais quand même, on s'aperçoit avec le temps que il y a des personnes qui s'entêtent pour leur propre malheur. Mais c'est terrible. C'est pourquoi Jérémie dit aussi que le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors on a dit que Dieu veut que tu aies une vie réussie. Que tu réussisses ta vie. Alors, quels sont les choix qui vont être importants? Eh bien, il y a notre choix de vie aura des conséquences. Soit ce sera une vie désastreuse, soit ce sera une vie heureuse. Voilà ce que dit Jérémie suite à ces avertissements de Dieu. Celui qui n'en fait qu'à sa tête, celui qui se confie dans les autres en soi et qui rejette Dieu, eh bien, il est comme un genévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Alors on va aller faire un petit tour depuis notre siège, voilà, dans le désert. C'est bien, c'est climatisé ici. Dehors il fait 40, ah, on en profite, hein. Voilà. Des fois ça permet un peu de relativiser, hein. Bon, elle marche bien la clim ici, c'est pareil. Ok. Cette illustration, elle est intéressante, parce qu'elle va comparer quelque chose visuellement. Allez, on va se promener dans le désert. Qu'est-ce qu'on voit? On regarde les arbustes, les plantes. Et on y voit une plante, un arbre, qui est là. Et on remarque qu'il est sec. Hein? Il est souffrant. Il manque d'eau et il ne peut grandir. Cet homme, c'est celui qui a cherché des appuis terrestres pour conduire sa vie. Résultat, il restera seul, sans espoir, dans un lieu où on aime bien seulement en poster ou en carte postale. Hein? Voilà comment est celui, d'après Dieu, qui ne met pas sa confiance en Dieu. Moi, j'ai une question à te poser. Qui influence ta vie? Sur qui ou sur quoi fondes-tu tes convictions? Sur qui est-ce qui inspire tes valeurs? Parce que selon ce que tu vas répondre et je vais répondre, il y aura des conséquences dans ma vie. Je me souviens un jour, nous étions en train de marcher pour une cause juste, etc. Et il y avait un jeune qui m'a dit « Ah, je voudrais te présenter un copain à moi, il est vraiment super !» Et c'est un jeune homme, et il s'est présenté, et puis il m'a dit « Ah, vous êtes pasteur, ça en a discuté. » Il m'a dit « Moi aussi j'ai des valeurs !» Je lui ai dit « C'est bien qu'un homme vit avec des valeurs, c'est super !» Et évidemment, je lui ai dit « Sur quoi basez-vous vos valeurs, jeune homme ?» Et là, il me répond « Sur moi-même !» En fait, je sélectionne ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors là, je me dis, bon, on défile, j'ai le temps, eh ben on va discuter avec lui. Hein? Mais si c'est mes propres valeurs, ses propres valeurs changent, non? Parce que si nous regardons bien les valeurs en France depuis 30 ans ou 20 ans, elles n'ont pas l'air de... Voilà. Il y a des domaines où ça avance. Je suis content que les femmes puissent être reconnues, etc. Vraiment, ça, c'est vraiment super. Mais il y a des domaines, parfois, au niveau éthique, oh là là! Et des dégradations, des choses absolument désastreuses. Et en fait, ce que je voulais faire toucher du doigt à ce jeune homme, c'est si tu bases ta vie sur les valeurs de ce que toi tu vas sélectionner, ces valeurs, elles vont être changeantes. Et il y aura de toute façon des conséquences dans ta vie. Qui influence réellement ta vie? Sur quoi fondes-tu tes convictions et tes valeurs? Si c'est sur ce que les autres pensent, si ce qui est sur ce que j'entends ou sur mes capacités, eh bien, ma vie risque de ressembler à ça plus tard. Mais heureusement, il y a un deuxième choix, une deuxième option. Il y a celui qui aura une vie heureuse. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Pourquoi Dieu est-il l'assurance? Pourquoi Dieu dit-il « Je suis l'assurance » Eh bien parce que c'est lui qui s'est occupé de donner une descendance à Abraham. C'est lui qui a libéré tout un peuple d'Égypte pour l'amener dans la terre promise. C'est lui qui, par Jésus, a nourri des hommes dans le désert avec 5 pains et 2 poissons. Mais s'il a réalisé tout ça, c'est pourquoi? Pour une question. Pour montrer qu'il est digne de confiance. Sinon, pourquoi l'aurait-il fait? Si ce n'est pour justement nous prouver qu'il est réellement digne de confiance. La Bible nous dit qu'il n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Jésus ne s'est pas arrêté à ses miracles. Ses miracles, c'était des panneaux qui disaient « Je suis la vérité » dans la bouche de Jésus. Il a après pris notre avenir désastreux. Il a subi la croix, la couronne d'épines, les larmes, les clous, pour dire « Je ne veux pas que ces humains se perdent. Je veux leur donner un avenir. » Quelle belle promesse! C'est pourquoi il est dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Quelqu'un peut-il aujourd'hui garantir cela? On peut le dire, hein, ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que c'est sûr? Tout est une question de foi. L'acceptons ou nous le rejetons? Le Seigneur a tout fait pour nous. C'est pourquoi même l'apôtre Pierre nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Alors ce sera pour nous l'occasion d'être cet arbre verdoyant qui est planté près des eaux dont les racines sont au contact de l'eau et il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Ça nous fait penser au psaume 1, hein, heureux l'homme, hein, etc. Qui place en... Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Ça ne veut pas dire que la vie sera facile, hein. Même l'arbre planté près d'un cours d'eau, il subit la chaleur, il subit les intempéries, il subit comme nous-mêmes, hein, même le chrétien subit des difficultés, des épreuves. Hein. Tout à l'heure, Luc a donné une petite liste. Hein. des paroles dites avec colère, des petites disputes à la maison. Ça arrive jamais, ça. Mais bon, je sais pas où tu as trouvé ça, hein. Voilà, sur Internet, tu as fait des recherches, certainement, hein. Voilà. Et nous, on était là, on cochait les trucs et tout, hein. Il y en a qui ont un carton plein. Non, ça vous regarde, ok? Ça veut dire que même nos vies sont malmenées. C'est une réalité. Mais une chose est sûre. C'est que le contact avec Dieu, cette proximité avec lui, cette eau qui est le symbole du Saint-Esprit et de la parole, eh bien, nous désaltère et nous rafraîchit. Vous savez, on ne porte pas du fruit en une semaine ou en une nuit, hein. Ça met du temps. Et le Seigneur travaille ainsi ceux qui se confient en lui. Alors, comment les autres peuvent-ils reconnaître que nous sommes un bon arbre, planté avec lui? Eh bien, ils vont le reconnaître aux fruits que nous allons porter. Et nous ne portons pas des fruits pour nous, hein. On porte des fruits pour le Seigneur et pour être aussi en bénédiction pour les autres. Alors, en conclusion, se confier, cela veut dire faire confiance, considérer l'autorité d'eux, écouter le conseil d'eux. En qui te confies-tu? Si tu veux réussir ta vie, eh bien, il faut savoir en qui on se confie. Qui est ton intime conseiller? Comment peux-tu rester droit dans ta vie quotidienne? Comment peux-tu être un bon mari ou une bonne épouse? Organiser tes priorités? Comment vivre la puissance du pardon? Comment se garder de certaines erreurs? Comment? Dieu nous dit, moi je veux te conseiller et te conduire. Et cette question se trouve dans, cette réponse se trouve dans cette question. Qui est mon intime conseiller? Réussir sa vie n'est pas avoir tout ce que l'on veut. Ce n'est pas réussir selon les critères de la société. Mais réussir sa vie, c'est vivre dans cette proximité de Dieu qui cherche notre bien. Vivre dans son amitié, c'est cela réussir sa vie. Et c'est une construction solide et éternelle. Prions. Seigneur, merci parce que nous pouvons puiser la force en toi, la paix en toi. Seigneur, que ta parole ne soit pas seulement de la théorie pour nous, mais que nous puissions y puiser par nos racines ce qui est vital pour notre paix, pour notre vie avec toi. C'est pas seulement un privilège pour nous. C'est pas seulement, voilà, quelque chose que tu présentes et c'est réservé à quelques-uns, mais c'est une offre pour chacun. Je te prie, Seigneur, pour que nous soyons ceux qui réussissent leur vie en nous reposant sur celui qui est digne de confiance, c'est-à-dire toi. Amen.